Bonjour, ici Maxime Coutier, animateur d'Aujourd'hui l'Histoire. Voici un des épisodes de cette semaine. Pour écouter les autres, ils sont disponibles en exclusivité sur Radio-Canada Audio. Bonne écoute! Il est tombé dans la politique étant petit. Son père ayant été premier ministre, il est devenu à son tour à 39 ans seulement, quelques années avant son frère aîné. Ici Maxime Coutier, à Aujourd'hui l'Histoire, le parcours politique de Pierre-Marc Johnson et son bref passage au pouvoir.
C'est évidemment avec émotion que j'assume aujourd'hui la direction du gouvernement du Québec. Je ne peux évidemment m'empêcher d'évoquer une cérémonie semblable tenue ici même il y a 19 ans.
Discours d'assermentation de Pierre-Marc Johnson, 3 octobre 1985. Il devenait ainsi le 24e premier ministre du Québec et faisait référence à son père, Daniel Johnson, assermenté au même endroit 19 ans plus tôt, en 1966. Avocat, médecin, député, ministre et premier ministre, Pierre-Marc Johnson affiche une impressionnante feuille de route. En juillet 1977, quelques mois après l'accession au pouvoir du Parti québécois, il devient ministre du Travail. Figure de proue de ce gouvernement, il succède à René Lévesque en 1985 et accède brièvement aux plus hautes fonctions. Pierre-Marc Johnson sera toutefois battu par Robert Bourassa et puis contesté au sein de son propre parti. En 1987, il cause la surprise et démissionne. 6 ans plus tard, c'est son frère qui va devenir premier ministre, mais sous la bannière libérale cette fois.
C'est un cheminement. Je dois vous dire que je voyais venir un certain nombre de ces choses-là. Un petit peu même avant le voyage de Gérald. Il y avait des signes de... de ce que j'ai tellement connu dans ce parti-là pendant 20 ans. Hein? Comme M. Lévesque l'a connu, puis comme d'autres l'ont connu. Et devant des phénomènes comme ceux-là, encore une fois, on doit se poser des questions de fond. Ça sert qui? Ça sert quoi? Et ma conviction, c'est que cette espèce de grogne, qui, encore une fois, n'est pas relié à une personne, mais plus à des attitudes d'un certain nombre de personnes qui, bien que minoritaires, ont décidé de ventiler. Quelqu'un qui me disait l'autre jour, « Bon, mais écoute, on fait la bataille, puis on y sort, entre guillemets. Écoutez, moi, j'ai pas le goût de passer les 3 prochaines années de ma vie à me faire dire que je suis pas souverainiste. J'ai pas le goût de ça. Je suis de cette trempe-là, moi. Puis j'ai mes convictions quant à la démarche que le Québec doit adopter pour un certain nombre d'années. Puis moi, je donne pas d'un pensée magique. »
Pierre-Marc Johnson, soulagé, annonçant sa démission comme chef du Parti québécois, c'était le 10 novembre 1987. Alors pour nous parler des années Johnson et de son parcours politique, mon invité, Jonathan Livernois, il est professeur d'histoire littéraire et intellectuelle à l'Université Laval à Québec, auteur également du livre « La Révolution dans l'ordre, une histoire du duplessisme », c'est publié aux éditions du Boréal. Bonjour Jonathan.
Bonjour Maxime.
Alors, Pierre-Marc Johnson, comme premier ministre, hein, ce passage est clair, là, ça peine quelques mois. Pourquoi il demeure malgré tout un personnage intéressant à vos yeux?
Bien, pour deux raisons, je crois. Bien, d'abord, le fait qu'il succède à René Lévesque, le chef, l'incarnation du Parti québécois. Donc, c'est le premier qui le suit. Déjà, ça, c'est assez important. Mais aussi le fait, vous l'avez mentionné dans l'entrée de jeu, il participe d'une espèce de dynastie. Hein? Donc, son frère va être premier ministre, son père a été premier ministre, et chaque fois dans un parti différent. Ça nous montre bien comment cette famille-là était au cœur de la politique québécoise depuis les années 40, en fait.
Oui, tout à fait. Mais parlons-en de son enfant, justement, parce qu'elle est déterminante. Hein? Et dans son cas, il tombe dans la politique tout jeune.
Bien, en effet, il naît en 1946 à Montréal et son père, la même année, hein, est élu député de Bagotte. C'est une enfance clairement au cœur de la politique. Hein, il le suit partout. Et son père, devient en 1966 premier ministre. Hein, il bat Jean Lesage cette année-là. Et le personnage devient très intéressant. Il ne force pas les contretemps de la Révolution tranquille. Au contraire, il continue ce qui a été amorcé sous le gouvernement Lesage. Malheureusement, son règne aussi est court. Hein, il meurt d'une crise cardiaque en septembre 1968. D'ailleurs, quand on pose la question à Pierre-Marc Johnson, il dit que son père avait peut-être, pavé la voie à l'indépendantisme. Pour lui, la jeune génération irait peut-être plus loin que lui a pu aller. Mmh. Hein, c'est peut-être un récit qu'il a construit a posteriori, mais en même temps, il y a certains députés de l'Union nationale, comme moi, je pense à Jérôme Proulx, qui dira qu'effectivement, là, on s'approchait vraiment de l'indépendance avec Daniel Johnson.
Oui. Donc, ben, égalité voilà ou indépendance, c'était
exact. Le,
c'est lui, bien sûr. Hein?
Tout à fait.
Comment son fils, lui, hein, dans le cas de Pierre-Marc, comment il devient indépendantiste?
Ben, il y a plusieurs choses. Bon, d'abord, il milite dans plusieurs mouvements étudiants et, ben, comme souvent dans ces dynasties politiques, il fait son droit, donc il devient avocat. Mmh. Mais, donc, il est au barreau à partir de 71. Ça ne semble pas lui suffire parce qu'il décide de faire sa médecine. Hein, c'est l'autre métier bourgeois par excellence. Et il fait ses études à Sherbrooke. Et là, il va tranquillement s'intégrer dans les mouvements, dans les instances du Parti québécois dans la région de Sherbrooke. Ce qu'il dit, hein, a posteriori, c'est que la crise d'octobre a été une sorte de choc, un déclencheur pour lui. Et il décide vraiment là, de suivre la voie du Parti québécois. Et le Parti québécois, lui, essaie, hein, on sait que les péquistes ont inauguré en 1974 l'opération Bleue. Hein. Qu'est-ce que c'est? Ben, on voulait élargir la base électorale, donc on a recruté plusieurs unionistes. On a essayé avec Marcel Masse, ça n'a pas fonctionné, mais ça a fonctionné, par exemple, avec Jean-François Bertrand, qui est le fils de Jean-Jacques Bertrand, un autre premier ministre, et ça a fonctionné avec Pierre-Marc Johnson. Donc, il ne sera pas candidat à l'élection partielle de 1974 dans le comté de Johnson, ça va être un peu étrange, mais n'empêche, ça sera pour une prochaine fois, et il hésite un peu à ce moment-là, et doit de toute manière finir sa médecine.
Oui, ce qui est assez prenant, on imagine bien, mais déjà en 1973, en tout cas, on lui prête des intentions politiques, oui, on va l'écouter à ce sujet sur le plateau de Lise Payette. Appelez-moi Lise, c'était le 11 décembre 1974. Et là, justement, il complétait sa formation en médecine.
C'est ça.
Est-ce que je peux me permettre de vous dire quelque chose que votre père vous aurait peut-être dit? C'est quand on veut régler des problèmes en médecine, il faut peut-être le faire en politique.
Commencez par essayer en médecine.
Oui. Est-ce que vous finirez en politique?
Je ne pourrais pas le dire. Vraiment. Vraiment, je ne peux pas le dire.
Dites-moi ça sans rire.
Non, en fait, je pense que ces choses-là arrivent... Et quand on choisit un métier comme la médecine, je pense qu'on ne peut pas planifier en fonction d'autre chose que le métier qu'on a choisi d'abord. On peut accepter qu'il arrive quelque chose en cours de route. Mais je n'ai pas un plan de carrière pour faire
vous
la politique.
Vous n'êtes pas présentement là en train de vous préparer à être candidat?
Non, absolument pas.
Non, absolument pas. C'est ce qu'il disait donc 11 décembre 1974. Est-ce que c'était clair pour lui qu'il allait se diriger un jour en politique?
Oui, je pense que oui, très clairement. Je pense que toute sa formation témoigne d'une volonté de faire de la politique. Quand on est en plus dans la politique, quand la politique ne nous dégoûte pas, mm-hmm. Au contraire, c'est tout. C'est la voie est pavée d'avance. Il se présente, évidemment. Finalement, et pas très longtemps après cet entretien avec Lise Payette, on est en 1976. Hein? Ouais. Et là, il fait le choix d'un comté non pas dans la région de Sherbrooke, mais dans l'est de Montréal. C'est le comté d'Anjou. C'est un quartier étonnant qui part du fleuve. Il va assez haut, donc, jusque dans Ville d'Anjou. Évidemment, c'est le quartier où il y a les fameuses galeries d'Anjou. Mm-hmm. Mais il y a donc de tout là-dedans. Il y a des familles assez pauvres hein, dans les immeubles à logement. Il y a le quartier populaire de Tétroville. Il y a aussi des maisons de classe moyenne et même supérieure dans Ville d'Anjou. Alors, c'est un drôle de portrait, si vous voulez, socio-économique, en quelque sorte. Et ce comté, on le considère tout à fait prenable. L'élection précédente, en 1973, le libéral l'avait emporté par 828 voix, ce qui n'est pas énorme. Donc, il se lance en campagne électorale et il peut compter notamment sur Yvon Deschamps, son ami, qui vient le présenter dans le comté. Et finalement, le 15 novembre 1976, hein, c'est la fameuse vague bleue du Parti québécois, et il est élu dans la circonscription donc d'Anjou.
Ouais. Élu avec plusieurs autres, évidemment, vous l'avez dit, donc la vague du Parti québécois. Il va devenir par la suite ministre, très jeune, hein, 31 ans à peine, ministre du Travail, alors que le contexte social est agité. Là, c'est vraiment l'époque des grandes grèves, on est encore là-dedans.
C'est un gros ministère à ce moment-là, très clairement, parce que, bon, les grandes grèves, vous l'évoquez, on pense à la United Aircraft quelques années auparavant à Longueuil, mais on pense à la Commonwealth Plywood à Sainte-Thérèse, il y en a partout. Hein, son cahier de charge est énorme, c'est un gros défi pour le jeune député. Il n'arrive pas en 76 à les nommer quelques 7 ans plus tard, à l'été 1977, parce qu'il remplace le père Jacques Couture, qui, lui, est plutôt envoyé à l'immigration. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Ben, d'abord, il prend le relais du projet de la loi 45, hein, qui veut modifier le Code du travail avec notamment des mesures anti-SCAB. C'est pas facile, il y a beaucoup de débats à gauche, à droite. N'empêche, il réussit assez bien à faire passer la chose. D'ailleurs, dans les documents inédits qu'a pu identifier l'historien Jean-Charles Panton, les proches conseillers de René Lévesque considèrent justement que les meilleurs ministres, hein, à cette époque, c'est lui-même, donc Daniel Johnson, Jocelyne Ouimet aux travaux publics et Pierre Marois. Donc, c'est les meilleurs ministres, mais c'est un ministère résolument éreintant. Comme on le dit, il y a tellement de grèves. Alors, lors d'un remaniement ministériel en 80, il devient plutôt ministre des institutions financières. Certains y voient une démotion, lui dira qu'il avait besoin d'une tâche un peu moins prenante. Donc, on peut choisir sa version.
Tout à fait. Mais l'année suivante, on va lui confier un autre gros ministère, là, celui des Affaires sociales, ce qui comprend la santé à l'époque. C'est pas simple. Ouais. Tout ça dans un contexte de récession en plus, hein, début des années 80.
Tout à fait. Là, ça commence tout à fait, les espèces de coupures. D'ailleurs, dès qu'il arrive au ministère des Affaires sociales, le premier ministre lui dit, ben, M. Parizeau vous demande de couper 250 millions dans votre ministère. Ah oui. Ça part mal un peu. Et là, c'est toute la question, et on en a parlé ensemble, Maxime, vous en souviendrez, de la loi Matraque de 1983, des grandes grèves. Mm-hmm. Ben, justement, c'est des grandes crises sociales, et il y a des manifestations, il y a des grèves, il y a des conflits générationnels qui éclatent au sein même du caucus du Parti québécois. Les jeunes ministres, comme Pierre-Marc Johnson, proposent de rouvrir les conventions collectives, on en avait parlé. Oui. Malheureusement, pour lui, en tout cas, ben, ça ne sera pas le cas et ça va être très difficile. Et Pierre-Marc Johnson disait bien qu'en 83, ils avaient perdu les élections, alors qu'ils seront plutôt défaits en 85, mais déjà, on sentait les effets absolument néfastes de cette crise.
Oui, tout à fait. Cette loi 111, hein, cette loi Matraque qui force le retour au travail des enseignants. Donc, c'est vraiment un point de rupture entre le gouvernement Lévesque et le mouvement syndical. À ce sujet, ben, on va l'écouter, justement, le principal intéressé, Pierre-Marc Johnson. C'était au micro de Pierre Nadeau, Le Point, 5 décembre 1985, au lendemain de la défaite péquiste après deux mandats.
Mais cela dit, quand même, s'il n'y avait pas eu ces coupures, ça aurait fait votre affaire. Et ce que vous, qu'on va comprendre, c'est qu'à ce moment-là, vous avez le sentiment qu'il y aurait eu peut-être un peu plus de gens qui auraient voté pour le PQ lundi
dernier. C'est ça. Mais on a manqué une occasion à ce moment-là de faire partager par cette partie si importante de la vie collective que sont les employés de l'État. C'est beaucoup de monde. Puis c'est du monde qui a agi dans le sens de faire progresser le Québec pendant bien des années aussi. De leur faire partager notre diagnostic de la réalité puis la nécessité de mobiliser le Québec vers la croissance économique et puis vers sauver des emplois dans le secteur privé au moment où on a perdu 140 000 à cause de la crise économique. Et si c'était à refaire, je l'ai dit pendant cette campagne, je l'aurais fait autrement. Ou en fait, je l'aurais fait comme moi j'aurais voulu que ça soit fait en 81.
Effectivement, à ce sujet, il y aura une scission au sein du Parti québécois. Donc, c'était presque une défaite annoncée, sachant ce qu'il y avait eu avant, puis l'usure du pouvoir aussi, deux mandats, contexte de récession, d'inflation, de chômage. Et puis, il y a une crise de confiance aussi à l'interne, hein, au sein du Parti québécois, parce que, évidemment, René Lévesque s'en va en 1985. Est-ce que Johnson a été déloyal envers René Lévesque? Est-ce qu'il a préparé sa succession avant son départ?
Je ne crois pas. Évidemment, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais il semble avoir été assez loyal. D'ailleurs, René Lévesque lui a confié des tâches très importantes aussi. Hein. Il est devenu ministre de la Justice, des Affaires intergouvernementales. Il est donc très présent. Certains le voient comme son dauphin, et les sondages, effectivement, donnent raison à ces personnes, parce qu'il est très, 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 très populaire de ce point de vue. Alors, René Lévesque, on ne passera pas beaucoup de temps là-dessus, mais on sait que ça a été très difficile pour lui dans les dernières années. Donc, quitte le Parti québécois, la direction, il y a une course à la chefferie, et finalement, il est nommé Pierre-Marc Johnson au début de l'année de l'automne 85. Alors, il reste pas longtemps, hein, on l'a dit tantôt. Il reste quelques mois parce qu'il déclenche aussitôt une élection générale, des élections générales. Et il prévoyait la chose, bien sûr. Le Parti québécois est défait. Hein, il n'a plus que 23 députés. Et les libéraux de Robert Bourassa ont 99 députés. Hein, c'est quand même pas rien. Hein. C'est une très grosse victoire. Alors, il est dans l'opposition et c'est franchement pas facile pour lui. D'abord parce que Pierre-Marc Johnson n'est pas un homme d'emblée chaleureux. C'est un type très cérébral, pas facile à faire à dérider, semble-t-il, héritier d'une famille importante. Donc, le contact n'est pas très bon, semble-t-il, avec ses 22 députés. Son idée d'affirmation nationale, là, si on veut la résumer, parce qu'elle se développe assez rapidement après la défaite, mm-hmm. c'est de mettre finalement l'option souverainiste en veilleuse et d'aller chercher le plus de pouvoir possible. Donc c'est ça, c'est l'affirmation nationale. Et pour beaucoup de gens, ça passe pas. Et une certaine personne, on la connaît, c'est Jacques Parizeau. Et Jacques Parizeau, lui, est dans les coulisses. Il a démissionné en 1984. Il attend. Et ce qu'on dit, et Pierre Duchesne l'a bien monté dans sa biographie, c'est que Parizeau prévoit une défaite en 89 ou en 90 et espère pouvoir prendre la place de Pierre-Marc Johnson. Mais finalement, les choses vont aller beaucoup plus vite et c'est toute une histoire qui se produit en 1987.
Oui, parce que 87, hein, la crise éclate au grand jour, alors que le principal intéressé, Pierre-Marc Johnson, est à l'extérieur. Il est en France à ce moment-là. C'est le député Gérald Godin qui lance la première salve. On va l'écouter ici, suivi de Louise Arel. C'était le 30 octobre 1987, reportage de Jean Bédard au Téléjournal.
Donc, je pense que Pierre-Marc Johnson doit renoncer à la présidence du parti et laisser sa place à quelqu'un d'autre. Pour le bien du parti, le bien du Québec et le bien de l'opposition officielle de cette province.
Avec Johnson, dit-il, le PQ s'en va nulle part.
Je ne pense pas qu'un parti qui n'est pas le PQ puisse éliminer les idées de sa plateforme. Je pense aussi qu'il faut des gens qui ont des convictions et qui croient en ce qu'ils disent et que ça paraît à chaque fois qu'ils parlent.
Et il fait appel publiquement à l'ancien ministre Jacques Parizeau.
Donc moi, pour sauver le parti, pour sauver ceux qui l'ont fondé et qui veulent qu'il continue, j'offre à Jacques Parizeau de venir travailler avec nous pour le rebâtir.
Je crois que les indépendantistes dont je suis ont tout le loisir de revenir au Parti québécois.
Moi, c'est ma conviction personnelle qu'il faut un petit peu comme au hockey, là, revenir au jeu de base du PQ de façon plus certaine, c'est-à-dire l'indépendance et la social-démocratie.
Propos de certains élus, 30 octobre 87, alors que Pierre-Marc Johnson est à l'extérieur. Donc, on sent que ça joue très, très dur au sein du parti. Il aurait pu sans doute tenter de redresser la barre. Or, à peine 10 jours plus tard, il démissionne. Pourquoi un départ si hâtif?
Bien, il faut rappeler le contexte. Cette semaine de la fin octobre, début novembre, mm-hmm. est marquée par un événement que personne n'attend, c'est la mort de René Lévesque. Donc, le fondateur du Parti québécois meurt le 1er novembre. Alors, les émotions sont vraiment à fleur de peau. Ce que fait Gérald Godin surprend beaucoup. D'ailleurs, à l'époque, Marc Lerando, là, qui était journaliste, disait, c'est un procédé, je cite, « disgracieux d'un homme très sensible, pourtant d'habitude aux facteurs humains dans les décisions politiques ». Alors que cette fois-ci, il prend tout le monde de court en disant « Pierre-Marc Johnson n'est plus l'homme de la situation ». Alors, Pierre-Marc Johnson donc revient au Québec, en pleine funéraille. Certains députés commencent à parler, à suivre Godin, mais effectivement, il aurait pu redresser la barre, il aurait pu exclure Godin du caucus, et il pense, encore aujourd'hui, qu'il aurait pu, effectivement, reprendre le contrôle. Mais il démissionne. Il démissionne pourquoi? Plusieurs raisons. J'ai en fait posé moi-même la question dans le cadre d'une recherche, d'une biographie que je fais sur Gérald Godin, et ce qu'il me dit, c'est qu'il a vu au funérailles de Lévesque la même chose qu'il avait vu au funérailles de son père, Daniel Johnson. Il voyait les clans, il voyait les gens en discuter, presque, comment dire, débattre, préparer la suite autour du cercueil. Et il s'est souvenu de son père. Écoutez, Daniel Johnson est mort à l'âge de 53 ans. Et en 1987, Pierre-Marc Johnson en a 41. L'impression que oui, il pourrait revenir en force, ou en tout cas, au moins maintenir les choses en place, mais il ne veut pas. Il décide de se retirer, donc, et démissionne en ce début de novembre 1987. La vie pourra être ailleurs, selon lui.
Ben, il est tout jeune, hein, 41 ans à peine, et puis bon, c'est des facultés intellectuelles assez impressionnantes. On l'a vu, puis une formation qui est impressionnante. Hein. Vous avez dit, c'est quelqu'un d'assez cérébral, hein, très sérieux. Effectivement, c'est un homme extrêmement sérieux. On va écouter à ce sujet ce qu'en disait justement son vieil ami, Yvon Deschamps, hein, en ce qui a trait à sa personnalité. On l'écoute.
Je me rappelle pas, là, j'y pense, et je me rappelle pas l'avoir vraiment entendu rire. Sourire un peu, un petit rire de temps en temps. Mais même quand les dernières années, je l'ai moins vu parce qu'il nous fait croire qu'il est occupé, là, je ne sais pas ce qu'il fait. Mais quand je vais à Québec, disons, faire un spectacle ou quelque chose, souvent je le vois après, puis on va manger ensemble, on va être temps. Mais même là, c'est pas un gars qui va se mettre à faire des farces ou à parler d'autre chose que de politique ou de choses importantes. Le tiers-monde, parce que d'Oxfam, ces années Oxfam, ont fait qu'il n'a jamais oublié cette dimension-là du monde. Comme il me dit, tout le temps, il y a toujours cette phrase-là. Ce qui va arriver au parti, ce qui va m'arriver, ce qui arrive en politique n'a pas d'autre importance que ce que ça aura laissé de bon au monde. Si on y a resté quelque chose de positif, si on a fait quelque chose de valable, tout est parfait.
Donc oui, effectivement, un homme très sérieux quand même. Yvon Deschamps n'arrive pas à vous faire sourire lors d'un souper. Ça veut dire qu'on a un petit côté très cérébral. Est-ce qu'il avait la personnalité? Est-ce qu'il était doué pour la politique? Est-ce qu'il avait le goût de faire ça?
Moi, je pense que oui. Je pense qu'il avait ce goût, il l'avait depuis l'enfance. Et il avait sans doute une stature de premier ministre. Mais évidemment, celui qui le précède, c'est René Lévesque. Oui. Et René Lévesque, c'est le contraire. Hein. C'est l'homme qu'on considère accessible, ce qui n'est peut-être pas tout à fait le cas, mais qui donne l'impression d'être très accessible. Alors, le contraste est vraiment saisissant. Mais il avait une personnalité, et je sais aussi qu'il est capable de rire, très certainement. Mais c'est vrai qu'au premier abord, il peut avoir donc cette image cérébrale, donc une espèce de froideur. Mais évidemment, en politique, c'est souvent un problème. C'est-à-dire que c'est le premier contact qui est important. S'il se déride au bout de deux heures, ça peut rater.
Effectivement. On l'a entendu au tout début, quand il, lors de sa conférence de presse annonçant sa démission, disant « j'ai pas le goût de passer les trois prochaines années à tenter de convaincre mon entourage que je suis souverainiste ». Est-il toujours, aujourd'hui, souverainiste?
Moi, c'est une très bonne question à laquelle je n'ai pas vraiment la réponse. Mais ce qu'on sait d'abord, c'est qu'il est héritier, évidemment, de son père. Et déjà, l'ambiguïté indépendantiste était au cœur même de la façon de faire de la politique de Lyndon Johnson. Donc, il y a des indices quand même qui nous laissent croire que pour lui, les choses ont un peu passé à côté. D'abord, il va soutenir officiellement, publiquement, son ancien chef de cabinet, Raymond Bachand, qui va faire le saut en politique, mais chez les libéraux de Jean Charest. Mm-hmm. Alors, il l'appuie. Ah oui. Alors, de ce point de vue-là, on se dit, peut-être qu'effectivement, il n'a plus la même allégeance au Parti québécois, qui, il faut bien le dire, l'a assez mal traité. Hein. On peut comprendre une personne de vouloir s'éloigner un peu de ce parti. Je pense, quand on résume la chose, quand on pense à la chose, je pense que c'est d'abord et avant tout, et lui-même le disait, un bleu. Mais un bleu dans cette idée d'un certain conservatisme, mais aussi une vision de la politique très terre-à-terre, donc peu de questions éthérées, on reste toujours sur le sol. Donc, quand on voit qu'un pays, qu'une population décide de mettre l'option souverainiste de côté, je pense qu'un bleu comme lui suit, en quelque sorte, et ne veut pas convaincre nécessairement tout le monde, d'autant que la question est un peu passée, le moment est passé en quelque sorte. Enfin, c'est ma vision que j'ai de Pierre-Marc Johnson aujourd'hui.
Oui. Après deux référendums, d'affirmation nationale, on va en débattre longtemps puis en discuter, mais qui rappelle un peu le programme de la CAQ, quoique, hein, plusieurs pourraient remettre ça en question également. En tout cas, fort intéressant, quelqu'un qui fait partie d'une famille qui a marqué le Québec à sa façon. Trois membres de la même famille, premier ministre dans trois partis différents, ce qui n'est pas rien quand même. Hein. Mon invité, je rappelle Jonathan Livernois, professeur d'histoire littéraire et intellectuelle à l'Université Laval, auteur également de La Révolution dans l'ordre, une histoire du duplessisme. Il travaille actuellement sur une biographie de Gérald Godin. Merci beaucoup, Jonathan.
Merci, Maxime. Mon plaisir.
Merci également à toute l'équipe d'Aujourd'hui l'Histoire, à la recherche Sabrina Desnoyers, Anne Richer, recherche d'archives Mario Bolduc, Sophie Hélène Gibson, site Internet c'est Ronald George, mise en onde Martin Boulanger. Aujourd'hui l'Histoire est une émission de Mathieu Beauchamp. Ici Maxime Coutier, je vous souhaite une excellente soirée. À bientôt. Pour écouter tous les épisodes d'Aujourd'hui l'Histoire, puisqu'il y en a d'autres, rendez-vous sur Radio-Canada Audio.